L'atelier des médias, Ziad Malouf.
C'était en mars dernier, Street Press célébrait son installation dans de nouveaux locaux à l'extrême est de Paris. Par sympathie pour ce jeune média et pour son équipe, je décidais de participer à cette fête, d'y aller une heure pour saluer. Petite précision, je ne suis pas vraiment un animal social. J'aime les rencontres, les conversations, mais dans des contextes calmes, la foule me rend timide et m'inconforte. Arrivé sur place, je reconnais parmi les invités un visage familier, celui de Benoît Raphaël. Il était venu au micro de l'atelier à plusieurs reprises pour parler notamment du Poste, un média participatif lancé par Le Monde avec son appui, ou du Plus de l'Obs et du Lab d'Europe 1, deux autres projets auxquels il avait apporté son expertise. Je vais le voir et engage la conversation. Je lui demande par curiosité sur quoi il travaille désormais au sein de son entreprise Trendsboard. Je m'attendais à quelque chose lié aux réseaux sociaux, à la participation des audiences ou à une solution technique pour les grandes entreprises, mais je me trompais. Avant de répondre, il me sourit et me dit qu'il est en train d'élever des robots.
Éleveur de robots, c'est-à-dire que j'entraîne des intelligences artificielles.
L'homme, qui en général est d'un naturel distant, dépassionné, commence alors à me raconter dans le détail, avec un regard d'enfant, l'aventure Flint qu'il a lancée 2 ans auparavant. C'était quelques mois après la mort de son ami et associé Jean Véronis. À cette époque-là, Benoît avait tout essayé pour sauver son entreprise, mais il désespérait. Il s'était retrouvé quasiment seul avec son développeur informatique Thomas Maillet.
Mais on s'est dit, on s'est jamais engueulé, alors que moi j'ai fait d'autres associations et toujours en fait les boîtes se plantent souvent parce qu'on s'entend pas bien avec les gens et souvent des fois on s'associe avec ses amis, c'est la pire des choses à faire. Enfin, c'est pas une très bonne raison de s'associer avec quelqu'un, l'amitié, c'est souvent une mauvaise raison en fait. Et on s'est dit, ben on aura, le fait qu'on se soit rencontrés, c'est un pur hasard et on se serait jamais rencontrés, on se reverra jamais si on arrête là, donc ce serait dommage en fait d'arrêter de travailler ensemble. Et on s'est dit, bon, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Quoi. Vraiment, c'est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va regarder les comptes. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on peut décaler? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a juste eu envie de travailler ensemble. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire.
Je suis retourné voir Benoît Raphaël il y a quelques jours. C'est dans son bureau, en plein cœur de Paris, que j'ai enregistré ce que vous venez d'entendre. Comme je l'expliquais la semaine dernière, j'étais initialement venu pour parler de son élevage de robots, mais Benoît, avec mes encouragements, avait pris l'initiative de retracer son parcours professionnel hors normes, auquel nous avons décidé de consacrer 2 numéros de l'Atelier des médias. Dans l'émission précédente, que vous pouvez réécouter sur le site RFI.fr ou par podcast, c'est encore mieux, Benoît était revenu sur ses aventures au Dauphiné Libéré à Grenoble, au Poste du Monde, au Plus de l'Obs et au Lab d'Europe 1. Nous sommes maintenant en 2014, quelques mois après la mort de Jean Véronis. Benoît et Thomas Maillet ont décidé de sauver coûte que coûte leur entreprise et surtout leur collaboration.
Moi, entre-temps, j'avais été appelé par Nice Matin pour parler les salariés qui étaient en train de racheter leur journal. Donc, ça me faisait une petite source de revenus et un projet sur lequel me consacrer, qui est un très beau projet. Et donc, pendant ce temps-là, on s'est dit, on va juste essayer de récupérer un peu d'argent qu'on n'a jamais touché, en fait, du crédit impôt recherche, qu'on aurait dû toucher depuis des années, mais on ne l'avait jamais demandé. Donc, on a fait tous les dossiers pour pouvoir au moins rembourser ça. J'ai fait travailler Thomas donc sur des missions, mais je lui dis, en fait, repose-toi. On trouve juste le moyen de sortir financièrement des problèmes. On ne lève pas d'argent, juste on économise, on fait attention. Moi, je fais des missions ailleurs. Et on va juste laisser le temps de voir ce qui va émerger. Et on est resté 6 mois comme ça.
Pendant ces 6 mois, Benoît est parti à Nice Matin pour participer à sa dernière grande aventure média en date. Le rachat de ce groupe par ses salariés au sein d'une société coopérative, avec, rappelons-le aussi, le soutien financier de l'homme d'affaires Bernard Tapie.
Il faut savoir que Nice Matin, l'histoire a démarré dans l'appartement de l'un des leaders, en fait, Jean-François Roubaud, et ils étaient 5, quoi. Ils avaient quelques canettes de bière, ils avaient commandé des pizzas, et en fait, le journal n'allait plus, il était complètement en faillite, et donc devait passer au tribunal, il devait être racheté par un grand groupe belge qui, comme il était quasiment seul, en tout cas vraiment en position de force, a dit, moi je vais licencier 400 personnes sur les 800, quoi. C'était une espèce de je sais pas s'il avait tort ou raison, en tout cas, c'était quand même un massacre social assez violent, en disant, de toute façon, le papier c'est mort, et on va tous aller sur Internet et on vire tout le monde. Donc c'est un peu violent, ils se sont dit, on va pas se laisser faire, et ouais, on va dire qu'on va racheter notre journal, quoi. Et puis, mais c'était une provocation, en disant au moins on va l'obliger au moins à baisser un petit peu son ardoise et à licencier un peu moins de gens, parce que c'est lui a priori qui va gagner. Et le truc a pris en fait sur internet, il y a eu pas mal de succès, et puis ils se sont dit mais en fait bon il nous faudrait qu'on ait de l'argent, il faudrait qu'on rachète vraiment le journal, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc ouais mais il y a un truc qui s'appelle le crowdfunding, le financement participatif, donc ouais on peut peut-être aller demander de l'argent aux gens puisqu'on sent qu'il y a, que ça sensibilise les gens. Et donc ils sont allés sur le site Ulule qui permet de faire du financement participatif, et là le responsable a dit ouais mais enfin vous voulez combien, parce que racheter un journal ça coûte cher. Ouais 5 millions. Ça coûte un peu plus cher hein, de racheter un journal, mais bon, on peut s'arranger. Parce que c'est surtout en fait l'argent pour le faire tourner. Parce que quand on le rachète au tribunal, c'est pas l'argent pour le racheter, c'est l'argent pour le faire tourner. C'est un média qui coûtait quand même 80 millions par an. Qui gagnait un peu moins, donc qui perdait 15 millions par an. Et donc voilà, ils veulent au moins 5 millions, puis après on va chercher l'argent derrière. Et 5 millions, c'est impossible. Donc ils disent, vous voyez un peu plus bas. Et ils ont eu 400 000 euros. Assez rapidement, donc c'était un peu un déclic en disant quand même, on a réussi à avoir 400 000 euros, ce qui est énorme en fait, surtout pour l'époque et pour un journal. Et donc ça leur a permis notamment de payer une partie des frais pour avoir une équipe, un cabinet juridique qui puisse vraiment monter le dossier avec eux et en faire un dossier sérieux, qui soit en tout cas acceptable devant un juge qui de toute façon n'avait aucune envie de le laisser à des salariés en disant mais c'est quoi, c'est en plus les syndicats, qu'est-ce qu'ils vont en faire, enfin, ça va être le massacre quoi, autant le laisser à un industriel de la presse qui connaît bien les choses, tout ça. Et ils l'ont eu, avec à l'époque Robert Namias, qui est venu apporter le côté un peu rassurant, je viens de TF1, donc ça a sans doute permis de donner le dernier coup des stocks, en tout cas pour remporter, et vraiment contre toute attente, parce que je crois même 15 jours avant, personne n'y croyait vraiment. Ils ont eu le dossier, et donc je suis allé rejoindre l'équipe pour les accompagner, pour reconstruire en fait toute la partie digitale, mais surtout finalement pour réfléchir aussi à comment on pouvait reconstruire un journal au monde du digital. Donc je les accompagnais pendant un an et demi, et je trouvais surtout en fait que cette histoire de ce journal racheté par les salariés, au-delà d'être très sympathique, je trouve ça très moderne en fait. Puisque finalement, c'est un peu grâce à Internet qu'ils ont eu cette énergie-là, en disant bah, « finalement, les gens nous aident, quoi ». Et on a récupéré un peu d'argent qui n'a pas permis de racheter le journal, mais permis de monter le dossier, de se dire « on est solide, on est là avec les gens ». Je trouve ça très moderne. Le premier numéro du nouveau journal racheté, ça commençait par « ce journal vous appartient ». Donc on était vraiment dans une dynamique extrêmement moderne, et je me suis dit « là, il y a un truc à faire, on peut réinventer quelque chose ». Et finalement, ce journal, il pourrait se reconstruire, parce qu'il fallait quand même relancer. Journal qui perdait quand même énormément de ventes, il va se reconstruire autour de sa communauté. Donc moi, je suis concentré hein, sur la partie digitale qui était vraiment ma mission. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a plus personne. Tout le monde s'était barré. Pas d'argent, on ne peut pas embaucher. Et donc, il a fallu aller chercher l'argent. Donc on a fait un dossier pour le fonds Google. On a fait d'abord une stratégie, on a monté un projet, on est allé chercher, le projet coûtait 1 million d'euros, donc il n'y avait pas d'argent, donc du coup Google en a financé 60%, donc quelque part ce fonds Google a permis de faire émerger des belles choses, en tout cas pour nous, qu'on a eu très vite, donc ça a permis en fait de calmer tout le monde, et de pouvoir lancer, mais de créer une start-up dans l'entreprise, puisque comme on ne pouvait pas non plus embaucher, il a fallu tout faire en interne. Donc j'ai fait une soixantaine d'entretiens, je crois, recevoir tout le monde, mais qui, pour la plupart, ne connaissaient absolument rien Internet. Et c'est plutôt de cerner des esprits un peu souples, des gens créatifs ou qui avaient des projets, des choses comme ça. Et on a monté comme ça une équipe, moitié de gens qui ne connaissaient pas Internet. Pour la petite histoire, la directrice marketing digital était une secrétaire. C'est la secrétaire du rédacteur en chef, donc elle avait l'habitude de monter des événements, elle était très structurée, je trouvais, elle avait fait un peu de marketing, mais elle connaissait rien au digital, elle était tellement motivée qu'elle s'est formée toute seule, elle avait surtout beaucoup de talent, et quelques mois après, elle a reçu 2 prix, le prix régional de la meilleure campagne d'affichage pour le lancement du nouveau site, et le prix national, un des prix nationaux pour le meilleur film d'entreprise qui a permis en fait de lancer le nouveau projet, qui était de relancer en fait le lien avec la communauté en se disant si on doit relancer un projet, construire une équipe autour d'un projet sur le digital, il faut démarrer par l'offre payante, par l'abonnement et par s'interroger sur comment on crée du lien grâce à ça avec les gens. Donc à quoi sert un journal en fait ? C'est-à-dire à quoi aujourd'hui ce journal vous appartient ? Il appartient à ses salariés, il appartient à ses lecteurs. À quoi sert un journal local aujourd'hui ? Et la réponse a été assez simple, c'est qu'un journal local, il doit être utile. Il doit se poser sur des valeurs. Et un journal local, c'est un journal qui est utile à toute la population et qui permet de trouver des solutions à des problématiques locales. Donc le rôle du journaliste, il n'est pas juste d'annoncer les mauvaises nouvelles, il est d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut enquêter sur les problèmes, on essaie de voir quelles sont les solutions et pas juste demander à la droite ou à la gauche, à l'élu de droite ou de gauche, savoir s'il est d'accord ou contre, puis aller voir le syndicat, puis aller voir l'habitant, l'usager qui lui est pas content. En fait, ça ne sert à rien. L'important, c'est de comprendre ce qui peut être fait ailleurs, par exemple à l'étranger. Donc envoyer les journalistes à l'étranger, voir ce qui se fait dans d'autres villes, etc. Et on se rendait compte qu'on avait fait des analyses qui montraient déjà qu'il y avait une vraie appétence, notamment pour les nouvelles générations, de plus vouloir consommer pour consommer, d'abandonner un peu la notion de marketing pour s'attacher à des projets, à des produits qui ont du sens, qui leur semblent utiles, dans lesquels il y a une relation sociale forte, ou alors il y a du fun, mais en tout cas qu'il y a un vrai lien qui puisse se créer. Et il y avait déjà des études qui étaient faites autour de ce qu'on appelait le journalisme de solution, le journalisme d'impact, c'est-à-dire en fait un journalisme qui aide à régler des problèmes et qui surtout en fait essaie de pas seulement donner les mauvaises nouvelles. Alors on dit du coup c'est le journaliste positif, c'est-à-dire qu'on donne que les bonnes nouvelles, que les trains qui arrivent à l'heure. Non, c'est un journalisme qui face à un problème et c'est de dire voilà quelles sont les solutions. Ou parler aussi, c'est pas seulement des news, comme on dit, les infos c'est les news, de parler du new, le nouveau. De choses dont on ne parle pas habituellement, mais en fait il y a des choses à raconter parce que c'est inspirant et il se passe des choses positives, le monde ne va pas que mal. Et bien quand on faisait ça, en fait ça entraînait beaucoup plus d'empathie, qui est observée scientifiquement chez les gens, et les gens lisent plus longtemps, vont lire plus d'informations, donc ça améliore en fait la qualité d'information. Donc on s'est dit, ben, on va faire ça, quoi. On va essayer de faire ce truc-là. Évidemment, personne n'y croyait, en interne, mais c'est quoi ces trucs? Alors d'abord, solution, c'est journaliste positif, puis après, non, mais c'est du vrai journaliste, on va prendre le temps. Donc c'est une offre abonnée. Donc les gens ne vont pas payer pour du contenu, ils vont payer pour ce qu'on veut faire, pour le fait qu'un journal aille chercher des solutions, c'est utile, donc ils vont payer pour ça. On va aller chercher une communauté, un premier cercle de gens qui sont sensibles à ça. Et donc on va prendre le temps, les journalistes vont travailler pendant un mois sur un sujet, on va faire un sujet par mois, avec peut-être 5-10 contenus, mais sur le même sujet, on va creuser un sujet, poser le problème, trouver des solutions. Donc s'il y a des problèmes de déplacement dans la région de Nice, il y en a plein, on va d'abord creuser, comprendre ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a des tas de problèmes qui vont pas et qui sont pas toujours très cool. Et à partir de là, on essaie de voir ce qui s'est fait ailleurs. On interroge aussi des spécialistes, peut-être des gens qu'on n'interrogerait jamais, qui peuvent avoir des idées, un architecte, des étudiants, etc. Et on explore le problème et on prend le temps de le faire. Alors là, du coup, forcément, les journalistes disent, parce qu'ils ont, quand on est en presse quotidienne, on n'a jamais le temps d'enquêter, parce qu'il faut, il y a le chemin de fer à remplir, il y a la page à remplir, c'est compliqué. Ben là, du coup, mais ils y croyaient pas non plus. Mais quand même, ouais, mais bon, ça va pas marcher, de toute façon. De toute façon, l'offre payante, ça marche pas en local, ça a jamais vraiment marché. On a lancé vraiment les travaux après en juin. On a fait un nouveau site, et puis ensuite, l'offre payante. Dans l'objectif, c'est de se dire, on crée une communauté, donc avec des événements quand on est abonné, on participe, on décide aussi, on vote pour les prochains sujets, etc. Et on tourne autour vraiment de la notion de solution qu'on mettait aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, où on poussait aussi à l'entraide. Et on a eu un retour assez extraordinaire. On a doublé le nombre d'abonnés en un an. Le lancement était un vrai succès. Et on a pu observer qu'effectivement, les gens lisaient plus. Donc le taux de clic, c'est-à-dire sur les articles, quand on envoyait des newsletters, était multiplié par deux. Le temps de lecture, qui était en moyenne de 1 à 2 minutes sur Nice Matin. Eh bien là, passer en moyenne à 4 minutes sur des articles de solutions qui peuvent être du 15 000 signes, très long, avec du récit, etc. On prenait le temps, parfois monter jusqu'à 8 minutes sur mobile. Donc on a pu montrer qu'on pouvait augmenter la qualité, même sur un média populaire local, en travaillant sur le journalisme d'impact. Et donc ça m'a énormément appris que finalement, dans un monde horizontalisé, c'est plus seulement qu'on veut participer à l'info, c'est qu'on veut changer l'information. On veut pouvoir participer à ce que l'information change, en fait. C'est-à-dire, en fait, on veut pouvoir agir soi-même avec le crowdfunding, avec Internet. On peut s'organiser maintenant entre nous et on peut trouver des solutions. Donc, on accepte beaucoup moins une information qu'on reçoit passivement. Et donc, on a besoin d'une information qui s'adapte, en fait, à cette nouvelle façon de penser, à cette nouvelle façon d'agir. Et il n'y a rien de plus insupportable quand on est connecté à et qu'on voit tout ce qui est possible de faire et qu'on peut déjà faire des choses autour de nous, de recevoir une information qui est simplement négative, qui ne nous donne pas les clés pour pouvoir agir, parce qu'aujourd'hui on peut agir grâce à Internet, et quand le pouvoir n'agit pas ou est emmêlé dans ces problématiques politiques ou politiciennes, eh bien on peut déjà nous faire des choses de notre côté. Donc les médias doivent embrasser ça.
Et ça, en parallèle,
ton objectif, c'était de sauver ta boîte parce que tu avais donc ton association avec Thomas Maillet et que tu sentais que vous pouviez travailler ensemble puisque vous aviez réussi à bosser ensemble pendant longtemps sans jamais vous engueuler.
C'est ça. Donc Thomas est une sorte de chercheur fou. En fait, il a besoin de pouvoir réfléchir et pouvoir inventer. C'est un créatif en fait de la technologie quelque part. Donc il s'est rapidement mis en fait à l'intelligence artificielle parce qu'en fait il était tout seul et que c'était beaucoup plus facile de faire du machine learning, de l'apprentissage automatique, parce que l'apprentissage automatique, donc la machine apprend d'elle-même et donc on peut lui faire faire des choses que nous on ne fait pas et lui pouvait s'occuper d'autres choses. Et moi j'avais quand même ce rêve un peu de me dire j'adorerais avoir le sélectionneur absolu, quelque chose qui nous permette vraiment non seulement de nous donner les contenus les plus intéressants pour moi, mais aussi peut-être de nous bousculer un peu, quoi, de nous emmener un peu vers autre chose, parce qu'on s'enferme un peu. Quoi.
Quand Benoît Raphaël parle de sélectionneur absolu, il fait allusion en fait à un outil qui pourrait repérer parmi les milliers de choses partagées en ligne, celles qui intéressent un individu en particulier.
Et Thomas a commencé à faire des choses, et tiens regarde, j'ai commencé à bosser sur ces technologies-là, on arrive à sélectionner là, automatiquement des contenus, oui mais alors la qualité, comment on peut avoir la qualité? Parce que là, le partage ça sert à rien, quoi, parce qu'on est trompé maintenant. Avant ça, c'était l'émergence, ça, l'expression de quelque chose, maintenant le volume de partage peut être extrêmement faussé, nous entraîne d'ailleurs vers les fausses informations. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, peut-être par l'intelligence artificielle, essayer d'observer les humains, de voir comment sur les réseaux sociaux, quels sont les différents profils et quels sont ceux qui font émerger la qualité. Mais il faut d'abord apprendre aux robots, en tout cas à l'intelligence artificielle, ce qu'est la qualité, qu'elle aille observer les humains pour voir, pour essayer de comprendre ça.
Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer donc, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et en quoi c'est différent d'un autre terme qu'on utilise beaucoup qui sont les algorithmes. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle?
Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'effectivement, le Graal aujourd'hui, c'est dans ce chaos d'Internet qui est justement lié au fait, c'est toute mon histoire en fait, le participe. D'abord, l'émergence des réseaux sociaux, l'horizontalisation de l'information et de l'action aussi, et des projets et de la monétisation, donc qui fait qu'aujourd'hui tout le monde s'exprime. Donc c'est super, les algorithmes essaient de mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais ça nous entraîne par un effet un peu de machine à laver vers des fausses informations, parce que la viralisation, l'hyper-viralisation est en même temps ce qu'on appelle les bulles de filtre, qui nous enferment et nous éloignent de toute idée contraire ou toute idée nouvelle et peuvent nous entraîner vers des fausses informations. Et à la fin, on finit par plus faire confiance à personne.
Donc, la viralisation, c'est quand une info se propage, hein, et les bulles de filtre, c'est le fait que dans les réseaux sociaux, on va souvent être entouré de personnes qui nous ressemblent, et du coup, on va pas être confronté à des informations qui nous dérangeraient ou qui nous ressemblent pas.
Oui, parce que les algorithmes en fait vont essayer de personnaliser l'information et donc à force de personnaliser, on vous resserre toujours la même chose et puis plus on vous resserre des choses qui vous intéressent, plus vous allez cliquer, donc vous renforcez l'algorithme. Pour sortir de ça, il fallait d'abord aller chercher la qualité et ensuite une forme de sérendipité, trouver des liens, en tout cas avoir quelque chose de suffisamment intelligent. En fait, il fallait un être humain. En gros, il n'y a qu'un être humain qui peut vous dire voilà, la qualité, qui vous connaît bien, qui vous fasse confiance, qui vous comprend, qui en même temps est capable aussi de savoir ce qui est bon pour vous. Donc ça, il fallait un être humain. Mais en fait, il fallait même un être humain par personne, voire sans être humain par personne, ce qui est juste impossible. L'intelligence artificielle est venue naturellement parce que, à la différence d'un algorithme, l'algorithme, vous devez, si vous devez définir la qualité, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs, un article de qualité, c'est quoi? Alors du coup, il faut mettre 40 critères, la longueur, mais du coup, il faudrait qu'il ait été retweeté par quelqu'un que j'essaie de mettre de confiance. Mais en fait, ça dépend parce que ça dépend de vous, ça dépend de moi et que la qualité est complètement subjective. Un algorithme, donc, il se programme. Donc si vous voulez, par exemple, expliquer un algorithme, ce qu'est la qualité, vous donnez plein de critères et il va essayer de trouver l'article qui correspond à ce critère-là. Le problème, c'est que parfois, il peut devenir incohérent, parce que quand trop de critères, ça finit par créer parfois des effets de croisement et d'entonnoir et aussi d'assèchement, finalement, des résultats. L'intelligence artificielle, en tout cas celle qui fonctionne en apprentissage automatique et qui utilise ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, qui essaie de reproduire, en tout cas, le fonctionnement d'un cerveau, en tout cas, de manière théorique ou imagée, eh bien, elle ne se programme pas. Elle s'éduque.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous et avec Benoît Raphaël. À tout de suite.
«
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le journaliste et entrepreneur Benoît Raphaël. Après avoir été un acteur incontournable des nouveaux médias entre 2007 et 2014, Benoît est entré par hasard et avec la complicité de l'informaticien Thomas Maillet dans l'univers des robots. Le but des deux hommes est de créer un outil intelligent qui arrive à déceler dans le brouhaha des réseaux sociaux les contenus qui pourraient intéresser un individu lambda. Cet outil s'appuie sur le principe de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, en tout cas celle qui fonctionne en apprentissage automatique et qui utilise ce qu'on nous utilise, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, qui essaie de reproduire en tout cas le fonctionnement d'un cerveau, en tout cas de manière théorique ou imagée, eh bien elle ne se programme pas, elle s'éduque. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire, si vous demandez par exemple un algorithme de reconnaître une photo de chat, vous devez lui décrire le chat. Donc il faut beaucoup de critères parce que le chat il peut être vu sous différentes lumières, il peut avoir des poils, pas des poils, des oreilles pointues, pas des oreilles pointues, il peut être vu d'en haut, donc du coup il n'a plus d'oreilles. Voilà. Bon. En plus vous allez avoir trop de critères, et ça a un effet d'écrasement quasi mathématique en fait, qui fait qu'au bout d'un moment les résultats s'écrasent et on n'arrive pas à améliorer finalement ça. Alors que notamment via les réseaux neuronaux et l'apprentissage automatique, le machine learning, eh bien on lui montre un chat et on lui dit c'est un chat. Et après, on lui montre un non-chat, et on lui dit c'est pas un chat, et un chat, c'est un chat, c'est un chat. Et on lui montre comme ça des milliers, voire des millions de fois une photo de chat, et on lui donne l'équipement mathématique nécessaire pour que lui, petit à petit, il parvienne à comprendre ce qu'est un chat, alors qu'on lui a jamais dit ce que c'est un chat. On lui montre juste la photo. Et donc lui, après, ce ne sont que des mathématiques, parce que l'intelligence artificielle n'a absolument pas conscience de ce qu'on est en train de lui dire. Hein. Simplement, il faut qu'elle se rapproche. Quand on lui dit chat, on lui dit 1. Quand on lui dit pas chat, on lui dit 0. Donc quand il y a une photo, il dit bah ça c'est 1 et là c'est 0. Donc du coup la photo que je viens de voir là, ça va être quoi? Alors ça va être 1 ou 0. Et donc du coup il va faire des tas de calculs, on appelle des calculs par régression, pour petit à petit arriver à un résultat qui se rapproche en fait du 1. Donc c'est de la prédiction en fait quelque part. Donc on fait exactement la même chose avec nos petits robots, qu'on appelle robots, qui sont des intelligences artificielles, en leur montrant un article de qualité pour nous. Et je lui dis, ça c'est qualité, et ça c'est pas qualité, ça c'est qualité, ça c'est pas qualité. Donc petit à petit, il va comprendre le thème dont on parle, et petit à petit, il va comprendre en fait, pour moi c'est la qualité, pour moi c'est cool. Donc du coup, quand il va recevoir plein d'articles, eh bien il va essayer de chercher ceux qui, donc il va faire des calculs pour chercher ceux qui se rapprochent de ce qu'il a compris être de la qualité, mais je lui donne aucun critère, je lui donne pas de mots-clés, je lui donne pas de liens particuliers, de sources, je lui explique rien, je lui dis juste, c'est bien, pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et donc au départ, moi ce que je voulais, c'était commencer par quelque chose de très simple, j'en avais besoin pour moi. J'avais un vrai problème de veille et j'y passais trop de temps et donc j'avais pas le temps en fait.
De veille, c'est-à-dire de repérer les articles ou les informations qui t'intéressent.
C'est ça, oui. Pour mon métier, j'avais besoin de savoir ce qui m'intéressait, d'avoir les dernières informations, mais des analyses aussi, donc beaucoup de choses sur des blogs aussi. Je connaissais 2-3 sources, mais j'avais besoin d'avoir un peu plus de choses. Et surtout, je ne faisais pas confiance aux différents outils qui existaient, qui étaient tenus par des algorithmes, parce que je ne savais pas vraiment comment ils fonctionnaient, et je me disais qu'ils pouvaient toujours rater quelque chose. Donc je voulais avoir une intelligence artificielle que j'éduque moi, qui soit comme un assistant auquel je ferai confiance, puisque a priori c'est moi qui l'ai éduqué. On a commencé à l'entraîner le 16 août 2016, c'est là où est né mon robot à moi. Je me suis rendu compte que c'était une aventure fascinante, parce qu'on voit petit à petit, alors je lui dis rien, c'est ça, je lui montre des choses, je lui dis c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Je vois petit à petit qu'il commence à comprendre et à avoir une cohérence sémantique, et à vraiment me chercher des choses intéressantes. Et à la fin, je me suis dit, si le jour où je ne pourrais plus m'en passer, on en fera quelque chose, on le mettra entre les mains du public. Et il y a eu un jour où je ne pouvais plus m'en passer.
Et c'est ainsi qu'est né le projet Flint, dernière aventure en date du journaliste, entrepreneur et créateur Benoît Raphaël.
Le projet Flint auquel on a travaillé, l'idée était de créer par l'intelligence artificielle une sorte de guide dans le monde de l'information et de la connaissance qui soit capable à la fois de me comprendre, de me surprendre aussi, pour me sortir de mes bulles de filtre créées par la personnalisation de l'information, et qui puisse me chercher chaque jour les articles les plus intéressants juste pour moi et me les envoyer par mail. Et il m'envoie 10 liens, donc 10 liens vers des articles de différents médias par mail tous les jours en disant « Salut Benoît, je m'appelle Flint, voilà ce que j'ai trouvé pour toi ». Ça, c'est le projet Flint. Mais on a commencé d'abord par une intelligence artificielle que j'avais entraînée moi-même sur les médias pour voir si ça fonctionnait. Et donc ça s'est mis à très bien fonctionner donc pour moi. Donc du coup, je me suis rendu compte que je lui faisais confiance parce que je savais comment je l'avais entraîné. Il y a un vrai lien de confiance qui s'est créé et je ne peux plus m'en passer. Donc on s'est dit, on va lancer ce robot qui s'appelait Jeff. D'ailleurs, chaque robot avait un nom. Et on s'est dit, comme ça, on va demander à d'autres experts sur d'autres thématiques d'entraîner des robots, et les gens vont s'abonner à ces robots-là. Et en même temps, je trouvais ça un peu dommage de ne pas avoir quelque chose de plus personnalisé pour les gens. Et donc, Thomas m'a dit, mais on pourrait rajouter à la fin de chaque robot quelque chose de beaucoup plus personnalisé sur l'actualité générale et qui du coup, s'adapterait complètement. Et comme le chef des robots s'appelait Flint, que pour l'instant, on lui avait donné aucun rôle, on s'est dit, ce robot-là va s'appeler Flint. Et quand j'ai vu les premiers résultats, je trouvais ça intéressant. J'ai dit à Thomas, mais en fait, tu devrais, en fait, fais-moi une newsletter juste avec Flint pour voir ce que ça donne. Et si petit à petit, en cliquant sur les liens, il finit par apprendre et m'amener des choses intéressantes et peut-être me surprendre. Et au bout de 15 jours, je trouve ça vraiment, 15 jours, 3 semaines, je trouve ça vraiment intéressant. Donc on s'est dit, en fait, on va lancer le projet. On va lancer donc les robots élevés par les experts auxquels les gens vont s'abonner. Donc on a commencé par Jeff qui parlait de l'innovation dans les médias.
Qui était le robot que tu avais élevé toi ?
Qui était le robot que j'avais élevé moi. Et on s'est dit, on va aussi proposer aux gens d'élever leur propre robot avec Flint. Alors de façon très simple, hein. Donc on s'abonne à Flint, il nous envoie 10 liens et on clique sur les liens. Et quand on clique sur un lien, le robot pense que pour nous c'est un lien de qualité. Et petit à petit, il travaille, il réfléchit assez vite. Il essaie de nous amener quelque chose de plus en plus personnalisé. Et donc, je ne voulais pas faire trop de pub autour de ça. Donc, je me suis surtout adressé à ma communauté qui, à peu près, aimait les mêmes sujets que moi. Et j'ai dit, voilà, on a lancé ça. On a besoin de tester. On a besoin de récupérer des données. Et donc, on va voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je ne savais pas du tout. Autant Jeff, je savais qu'il donnait des bons résultats parce que c'est moi qui l'avais. Il donnait les mêmes résultats à tout le monde. Donc, il parlait des médias. Et je pouvais juger qu'il était performant. Autant là, balancer un robot qui allait envoyer n'importe quoi à n'importe qui et essayer de le personnaliser, ça me faisait un peu flipper, quoi. Je me suis dit, en fait, on sait pas du tout, ça se trouve, ça va pas marcher. Et donc, on l'a lancé. On était en pleine élection présidentielle, c'était en février 2017. Et ce que j'ai fait tout de suite, c'est qu'on a commencé à créer un lien avec les gens en leur demandant, en leur posant des questions, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voudriez qu'on développe. Et on s'est rendu compte qu'au-delà du besoin de trier, finalement, les abonnés, les abonnés sont gratuits, hein, le service est gratuit, se sont passionnés pour l'éducation de leur robot, de leur petit Flint. On a créé d'abord on les appelle robots, alors qu'en fait, ce ne sont pas des robots, ce sont des intelligences artificielles. Le robot est un objet physique, mais comme on leur a donné une forme de robot, c'est un peu comme Matisse, ceci n'est pas une pipe. Mais là, ceci n'est pas un robot, mais c'est quand même un robot. Donc on a créé un lien affectif, et surtout, les gens se sont passionnés pour l'éducation de leur robot, parce que l'intelligence artificielle fascine, parce qu'elle fait peur aussi, donc on a besoin de comprendre. C'est une première expérience, puisqu'on élève une intelligence artificielle. Puis deuxièmement, au-delà du besoin de trier, le vrai problème, c'est la confiance. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de reprendre le contrôle de notre information. Et la morale de cette histoire-là, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai fait, de cette horizontalisation qui a créé une richesse incroyable et dont il faut se réjouir, puisque cette horizontalisation de l'information, elle amène beaucoup plus de richesse. Mais elle crée aussi un grand bazar et elle risque de nous entraîner dans ces bulles de filtre, de créer des fausses informations, les fake news qu'on a vues lors des élections. Et donc ça, c'est un vrai danger parce qu'on risque de ne plus avoir confiance en personne. Et donc la démocratie peut être, alors qu'elle est enrichie par Internet, peut être mise en danger à cause de ça. Et donc on a besoin de reprendre le contrôle de notre information, donc il y a plusieurs choses à faire. Et nous, on s'est rendu compte qu'avec ce robot-là, c'était un moyen, parce qu'en éduquant ma propre intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle assez simple, elle est facile à comprendre. C'est mon robot, je lui dis j'aime, j'aime pas. Parce que oui, maintenant on peut dire j'aime pas, parce que les abonnés nous ont dit on aimerait bien quand même, parce qu'on n'arrête pas de cliquer, des fois on clique juste pour voir, on aimerait bien pouvoir lui dire quand même qu'on n'aime pas un article. Donc on a créé du coup un centre d'entraînement des robots pour les abonnés. Donc ils vont tous les jours, le robot leur amène plein d'articles régulièrement, et du coup on peut directement, sans passer par le mail, entraîner son robot. Du coup il monte en expérience, en score, et ça permet d'accélérer la connaissance que le robot a de nous.
Et chaque Flint, donc chaque mail qu'on reçoit, que reçoit quelqu'un qui s'abonne à Flint, est différent, c'est-à-dire chacun a éduque son robot. Le premier mail qu'on reçoit est une sélection aléatoire, et au fur et à mesure de l'éducation qu'on va lui donner, il va ressembler à ce qu'on cherche.
C'est ça. Exactement. Et en fait, c'est petit à petit que ça se fait. Ça se fait assez vite. Ça se fait assez vite aussi parce que pour l'instant, on est sur une communauté qui s'intéresse beaucoup à l'innovation, à l'intelligence artificielle, aux médias, à la communication. Donc, à tout ce qui concerne l'innovation. Donc on reste dans des territoires un peu sécurisés. Et tout le travail là, c'est de rendre Flint plus intelligent et plus élastique pour pouvoir intéresser un plus large public. Et donc finalement, 50% du projet, c'est pas seulement la technologie qui est ou l'outil de veille, c'est devenu l'histoire qu'on raconte, le fait que l'on construit ensemble une intelligence artificielle, puisque qu'est-ce qui fait la technicité et la qualité d'une intelligence artificielle aujourd'hui? C'est pas tant la technologie, c'est les données qu'elle reçoit. Donc finalement, plus on aura de monde qui utiliseront cette intelligence artificielle, plus aussi on construira avec eux les fonctionnalités, où est-ce qu'on doit aller, plus cette intelligence artificielle, en fait, elle avancera. Et les différents échanges, moi étant journaliste, donc finalement on s'est dit, moi j'avais fait des médias collaboratifs entre journalistes et citoyens, cette fois-ci je vais faire un média collaboratif entre humains et robots. Donc Flint, on l'a vraiment pensé comme un média collaboratif où les humains et les robots travaillent à permettre aux humains de reprendre le contrôle de leur information et de retrouver des articles de qualité et de pouvoir être surpris aussi, d'avoir un peu de sérendipité. C'est-à-dire que le robot nous amène de temps en temps des articles un peu au hasard pour nous pousser à nous intéresser à d'autres choses. Donc c'est ces mécanismes-là qu'on veut continuer à développer dans cette idée de média qui est que ce sujet, il est essentiel, la façon dont on consomme l'information. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils vont nous remplacer? Est-ce que ce sont des assistants? Enfin, tout ça pose énormément de questions. Et en fait, le fait de construire ensemble cette intelligence artificielle et d'être en même temps un média, donc on échange beaucoup, on a fait des événements, on s'est retrouvés. Moi, j'envoie régulièrement aussi des mails où on raconte notre histoire, ce qui se passe, les interrogations qu'on a. Sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup. J'ai aussi un blog. Donc il y a énormément d'échanges. J'interviens beaucoup dans les entreprises, dans les universités, en public, pour raconter cette histoire-là et donc pour ouvrir un débat. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce projet, il permettait aussi de nous interroger. Et il posait une problématique qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est que tout le monde a peur ou est fasciné par l'intelligence artificielle. On se rend compte que ce sont les géants de l'Internet qui s'en emparent, ou alors les États, donc ça devient aussi, il y a aussi un intérêt géostratégique, mais globalement ce sont les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, qui s'emparent de ces intelligences artificielles. Donc qui va contrôler ça? Ou alors les gouvernements, la Russie, la Chine, la France, les États-Unis, Trump, gouvernement chinois, Poutine, c'est pas top, quoi. Enfin, on sait pas trop exactement, et la Corée du Nord. Bon. Donc on a besoin de s'en emparer. Et ce débat-là, il est aujourd'hui uniquement entre ces gens-là, des techniciens, des développeurs et des scientifiques. Et pourtant, on n'est pas en train de parler de technique, on n'est pas en train de parler d'efficacité, on est en train de parler de l'avenir de l'humanité. Parce que créer en fait une intelligence artificielle, c'est créer un peu notre propre démon, notre propre miroir. On ne sait pas trop où ça va. Alors pour l'instant, il faut démystifier aussi, puisque l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de remplacer l'humain. Elle n'a pas conscience d'elle-même, elle est capable de faire des tâches mathématiques assez simples, même si elle a une forme d'autonomie. Mais on est en train de changer notre façon de vivre, et c'est en train d'aller très vite. C'est une révolution qui est plus importante encore que celle d'Internet, qui est en train de se passer sous nos yeux, et il faut que ce débat, en fait, on s'en empare.
Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Ok. Simple. Basique. Basique. Ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple. Les dauphins sont des violeurs. Ouais. Méfie-toi des apparences. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché.
Atelier des médias. Nous sommes cette semaine avec Benoît Raphaël, créateur de Flint, un projet de robot,
d'intelligence artificielle capable de trouver dans la masse d'informations partagées sur les réseaux sociaux des articles qui peuvent intéresser un individu en particulier. Un projet gratuit, simple, qui confronte ses abonnés à la réalité de l'intelligence artificielle.
Donc Flynn, qui est ce robot qui nous informe, nous rend plus intelligents et nous permet de reprendre le contrôle de notre information, l'information étant quand même la clé dans notre contrôle de notre vie et du monde.
Et en se basant sur des productions journalistiques ou de blogs, donc des productions humaines.
Évidemment, en se basant sur des productions humaines. Donc il n'écrit pas les informations, il va plutôt aller chercher le meilleur et chercher la qualité. Donc en ce sens-là, il rend service en tout cas. Mais où il pourrait ne pas rendre service si on poserait la question. L'important, c'est qu'il pose toutes ces questions-là. Moi, à aucun moment, je vais défendre l'intelligence artificielle et dire que ce qu'on fait est bien. Tout ce que je dis, c'est qu'on essaie de ramener l'humain dans l'intelligence artificielle, on fait en sorte que le média soit utile, mais en évitant aucune question. Et ce projet se construit avec les gens. Quand on me dit oui, mais alors du coup, si le robot cherche à notre place, est-ce qu'il ne va pas nous rendre plus feignants et du coup nous rendre plus passifs face à l'information ? Je dis, c'est une bonne question, mais parlons-en. Et ce projet aussi là, parce qu'il est simple, qu'il n'est pas dangereux en soi, et qui permet d'évoquer aussi tout ça, et qu'il y a une vraie connexion avec la communauté, qu'on se parle beaucoup, permet aussi de poser toutes ces questions-là et de faire en sorte que nous, citoyens, nous, artistes, nous, journalistes, on s'empare aussi de ces questions-là qui ne peuvent pas être laissées qu'aux scientifiques et aux développeurs ou aux grandes entreprises. Ce n'est pas une question là de... Il n'y a pas que des enjeux géostratégiques et économiques. Il y a des enjeux philosophiques, humains, des enjeux sociaux aussi, parce que si demain vous perdez votre boulot parce qu'il a été remplacé par un robot, je ne dis pas que ça arrivera et je ne dis pas que ça ne sera pas remplacé par d'autres métiers nouveaux qui vont émerger. Je n'ai pas la réponse, mais c'est important qu'on s'interroge quand même et qu'on arrête de s'interroger en ayant peur, qu'on s'interroge en essayant de comprendre. Donc en élevant son propre robot de façon simple avec Flint, on apprend aussi, on comprend, on apprend à travailler avec eux. Et moi, je suis persuadé que la question, ce n'est pas la puissance de l'intelligence artificielle qui est en jeu. La question, c'est le contrôle. Et pour contrôler, il faut apprendre à travailler, il faut comprendre comment ça marche, il faut démystifier. Donc là, avec notre petit robot et notre petit projet, on permet de faire ça. Il y a d'autres initiatives qui existent, qui existeront et qu'il faut soutenir pour que chacun, même dans les écoles, on apprenne à travailler avec les robots, à en faire des assistants. Pas forcément des esclaves, en tout cas s'interroger, ce sont des assistants, des compagnons, quelle est leur place, comment on leur parle, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça génère chez nous. Il y a toujours de l'émotion face au robot. Hein. On dit souvent que ce ne sont que des machines, mais c'est impossible de rester indifférent face à un robot. Il y a toujours une empathie qui se crée. Pourquoi ? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc tout ça soulève des débats extrêmement importants. Il ne faut pas dire que c'est demain, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que des jobs peuvent être pris ou supprimés, c'est maintenant que des choses sont en train de s'emboîter, ça va quand même assez vite, et c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions-là.
Je me suis donc abonné aux infolettres produites par les robots de Flint. D'abord YOLO, qui propose des contenus liés aux alternatives environnementales, économiques et sociales. YOLO a été entraîné par la journaliste spécialisée dans ces questions, Anne-Sophie Novel. Je me suis abonné également à Jeff, le robot formé par Benoît Raphaël. J'ai enfin apprivoisé mon propre robot qui m'envoie un courriel chaque matin du lundi au vendredi. Flint, c'est son nom générique, me propose une sélection d'articles de bonne qualité qui traitent de relations internationales, de médias et d'Internet. Si je clique sur un des liens proposés, le robot comprend qu'il m'a intéressé et il affine sa sélection pour l'avenir. Au sein du mail, je peux également cliquer sur un bouton rouge qui indique que je n'aime pas un certain contenu. Bien entendu, le fait de savoir qu'un robot va observer mon activité a une influence sur mes actions. Autre chose, étant abonné à Flint, je reçois en complément des lettres irrégulières cette fois-ci qui m'informent sur l'évolution du projet. Récemment, un long message expliquait la naissance d'une nouvelle génération de robots.
Flint, plus qu'un média, plus qu'un outil, et c'est certainement pas un outil, c'est un outil de veille effectivement qui permet d'avoir des informations intéressantes. C'est un média parce qu'il évoque un sujet, parce qu'il distribue de l'information, il fait une sélection comme pourrait le faire une rédaction d'experts et de journalistes qui sélectionneraient des informations juste pour vous. C'est aussi une expérience. Le fait que vous posiez la question quand vous cliquez sur j'aime ou j'aime pas, comment le robot va réfléchir derrière, etc., c'est extrêmement intéressant et ça fait partie justement, est-ce que ça influe, est-ce que ça va changer votre façon de lire. Moi j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient, quand je recevais la lettre, moi je m'intéresse toujours au même sujet, Mais du coup, en même temps, ça, je voulais pas que le robot pense que je m'intéresse à tel sujet. Non pas parce que il aurait une mauvaise opinion de moi, mais je veux pas qu'il m'enferme. Donc du coup, je me forçais à cliquer sur d'autres sujets. Et en fait, du coup, je les lisais. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai eu ce témoignage-là, par exemple. Un autre témoignage qui dit, ouais, quand même, une newsletter tous les jours. Alors, on peut maintenant choisir son rythme. Mais au début, c'était tous les jours. C'est quand même beaucoup. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais en fait, je me force quand même à cliquer parce que j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi sinon. Donc, tous ces comportements-là sont super intéressants et nous apprennent beaucoup de choses. Donc, du coup, on en discute, je les partage. J'ai même une dame qui a envoyé un mail en disant « Cher Flint et Jeff, je pars en vacances, ne vous inquiétez pas, je me suis désabonné, mais je reviens. » Et donc, du coup, on s'est dit « Il faudrait peut-être qu'on crée un bouton « Vacances » pour dire au robot qu'on est en vacances. » Donc, tout ça crée en fait des réactions et c'est tout ça, on l'observe, on en discute et ce qui nous permet aussi de faire évoluer les choses. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on s'est rendu compte que Flint, c'est un robot qui, lui, est un peu généraliste, qui est un petit peu différent des robots qui ont été élevés par des experts, que l'on ne peut pas éduquer. Lui, on l'éduque, et son but, c'est à la fois de vous comprendre, mais de vous surprendre aussi. Et donc, Flint, en fait, ne va pas forcément faire ce que vous allez lui dire, parce qu'il a une forme d'autonomie. Et on a vu, d'ailleurs, si vous regardez le robot, il a un bandeau de pirate. Flint, c'est le nom, d'ailleurs, d'un célèbre pirate de l'île au trésor, qui est le pirate qui a caché un trésor. Donc, il faut aller rechercher ce trésor-là. C'est ce qu'il va faire pour nous. Mais il a cette forme d'indépendance qui est extrêmement important parce que d'abord, l'indépendance permet de créer une relation. Le fait qu'il ne vous obéisse pas complètement vous oblige à créer une relation, à vous poser les questions que vous venez de vous poser. Et deuxième chose, l'indépendance, l'autonomie en tout cas du robot, impose un rapport de confiance. Et pour créer une confiance, il faut qu'il y ait une autonomie de part et d'autre. En fait, quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous éduquez quelqu'un, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Il va vous amener de l'information, donc il faut lui faire confiance. Il faut accepter cette part d'autonomie qui est nécessaire parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut et que parfois on peut s'enfermer. Et que lui, il est aussi là pour nous ouvrir, pour nous rendre plus intelligents. Donc ces mécanismes-là qu'on essaie d'améliorer, de comprendre. Je ne dis pas qu'on y arrive, je dis qu'en tout cas on essaie. Et c'est pour ça que l'expérience est communautaire, parce qu'on ne peut pas le faire sans vous. On peut le faire quand justement en ayant beaucoup d'échanges. Donc tous les échanges d'ailleurs, ce ne sont pas que des données qui sont envoyées, parce que nous on a juste j'aime pas et on ne sait pas trop quoi en faire d'ailleurs. Par contre les échanges, c'est beaucoup, on envoie des questionnaires régulièrement, les gens répondent, on rencontre les gens physiquement lors d'événements. Moi je prends des cafés très souvent avec des gens, j'en parle, je donne beaucoup de conférences pour recueillir, et souvent de plus en plus dans les conférences des gens sont abonnés, donc du coup ça permet d'avoir un vrai échange. Donc tout ça fait partie d'une expérience. Et c'est cette expérience-là qui, finalement, est ce qu'est Flint. Flint est une expérience autour de l'information et de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens s'abonnaient à Flint et puis s'abonnaient toujours à un robot expert sur une thématique à eux. Parce que Flint, souvent, ils nous disent, c'est un peu ma deuxième newsletter. C'est ma deuxième source d'information qui vient me surprendre. Et il est sympa, c'est cool, il m'amène vers des choses nouvelles. Il s'intéresse à mes sujets. Et quand même, bon, pour mon métier ou quand je suis passionné par un sujet, il y va. Des fois, il n'y va pas parce que si je ne le dis pas, et comme je ne peux pas vraiment lui dire là pour l'instant, et c'est volontaire hein, pour l'instant, il n'y va pas. Et puis si je veux vraiment approfondir, je ne peux pas. Et donc, on s'est dit, puisque vous abonnez aussi, ils ont Flint et un robot expert. Donc, est-ce que vous ne voudriez pas, vous aussi, avoir un robot expert que vous pourriez éduquer? Et on leur a posé la question, ils ont tous répondu oui, plus de 70%, et 37% nous ont dit qu'ils étaient prêts à payer pour ça. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à imaginer. Sauf qu'en fait, éduquer un robot expert, c'est très long. Et moi, ça me prenait énormément de temps, ça prend au moins 2 heures par jour pendant 3 semaines, et encore, moi, je ne le fais pas très bien. Et il y a d'autres personnes qui se sont amusées à entraîner des robots, des experts, pour s'amuser, pour qu'on puisse les publier sur la plateforme, et qui le faisaient beaucoup mieux que moi, donc j'ai essayé d'observer comment ils faisaient. Mais ça prenait quand même énormément de temps, et on s'est dit, on ne va pas demander ça aux gens, enfin, ça va juste être impossible. Donc on s'est dit, comment on peut améliorer ça? Donc on s'est dit, les robots pouvaient s'entraîner un peu eux-mêmes. Et comme les robots apprennent la qualité en observant les humains, c'est comme ça qu'ils vont sur Twitter, ils essaient d'analyser comment se comportent les humains et par rapport à ce qu'on leur dit, analyser ce qu'est la qualité. Bon, on s'est dit, on va leur permettre d'observer les humains et de nous observer nous-mêmes pour apprendre. Donc on a fait 2 choses, enfin Thomas surtout, on leur a appris ce qu'on appelle la culture générale. Donc on a créé en fait des bébés robots qui sont un peu les fils, les enfants en fait, les fils et les filles des anciens robots. Donc on a fait une chose d'abord pour que vous puissiez aller d'abord sur n'importe quel sujet, parce qu'il faut pouvoir s'entraîner sur tous les sujets possibles, il faut que vous compreniez le sens des mots et des concepts. Mais que vous l'appreniez tout seul, parce que si on met un humain pour vous apprendre tout ça, ça va prendre trop de temps, et on n'est que 2, nous, dans la boîte. Donc, on leur a appris, en fait, on dit, vous allez observer les humains, et vous allez essayer de comprendre et de mettre des mots ensemble, et de les associer à des concepts, de les associer à des sources d'informations ou à des profils sur Twitter, et de finalement créer comme ça une connaissance globale du monde juste en observant les humains. Donc on fait ça pendant 2 mois. Et maintenant, aujourd'hui, vous tapez quelques mots, vous envoyez un lien, et tout de suite, il fait les connexions et il vous ramène des liens qui correspondent à ce sujet-là, avec déjà une petite notion de qualité, parce qu'on leur a aussi demandé d'observer leurs parents, les robots, et les experts qui avaient entraîné ces robots. Donc, par exemple, moi, mon robot Jeff a servi de professeur au bébé robot, puisqu'en fait, c'est moi qui l'avais éduqué, et que donc, du coup, son fonctionnement est extrêmement cohérent en termes de cohérence sémantique, puisqu'on parle des médias, et de cohérence de qualité, puisque je lui ai appris la qualité. Donc, en observant chacun des robots entraînés par des experts, les robots ont appris aussi à s'entraîner un peu eux-mêmes. Et le résultat, ils sont arrivés il y a peu de temps et on a fait quelques tests et c'est vrai que c'est assez étonnant, un peu effrayant aussi parce qu'on voit que ça va très vite. J'ai envoyé 10 liens à un bébé robot et 2 heures après, en fait, il m'a sorti des articles très cohérents, assez cohérents autour de la thématique. Donc, il avait compris le sujet, compris globalement les sources et capable déjà d'être déjà pré-entraîné. Donc après, il a toujours besoin d'un humain pour personnaliser, pour aller plus finement dans la qualité, parce que c'est l'humain, hein, qu'on l'observe sur le terrain ou qu'on a un rapport direct avec lui, c'est l'humain qui donne la qualité, mais il fait ça en 2 heures, là, comment il fallait 3 semaines.
C'était Benoît Raphaël, rencontre avec un éleveur de robots, second volet de cet entretien réalisé par Simon Decreuse. Vous pouvez, sur le site de l'Atelier des médias, retrouver les 2 émissions consacrées à ce témoin de l'évolution des 10 dernières années dans l'univers médiatique. Merci à Benoît Raphaël pour le temps qu'il nous a consacré et la générosité de son récit. Si vous souhaitez vous abonner à Flint, c'est gratuit pour un usage déjà très complet sur flint.media. L'Atelier des médias est un projet porté par Simon Decreuse, Camille Deloche, Constance Léon, Léo Caravagna et Ziad Malouf. Merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Salut à toutes et à tous.